On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on fait le point sur l'état des soins palliatifs au Québec avec Aubert Martin, directeur de l'organisme Vive dans la dignité. Une nouvelle année 2019 qui commence et c'est le moment de regarder en avant ce qui s'en vient. C'est le moment aussi peut-être de faire le bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois. Et une question qui nous préoccupe, ou du moins qui nous intéresse hautement dans notre équipe du Verbe et dont on n'est pas du monde, c'est la question de la dignité humaine, évidemment. En tant que catholique, on n'y échappe pas, mais en tant qu'être humain, on pourrait dire, c'est une question qui nous taraude. Et sous l'aspect plus spécifique de la fin de vie, on a l'habitude de questionner un expert, ou du moins quelqu'un qui connaît ses affaires sur l'aide médicale à mourir, sur l'euthanasie. Et j'ai nommé Aubert Martin, qui vient de temps en temps à On n'est pas du monde. Salut Aubert.
Salut Antoine, merci.
Faisons le point d'abord sur l'aide médicale à mourir. Ça fait déjà quelques années que ça roule au Québec. Et là, il y a eu des changements qui ont eu cours dernièrement, entre autres l'élection de la CAQ plutôt cet automne. Et ça serait peut-être opportun de regarder le portrait, là, où on en est avec cette pratique-là au Québec.
Oui, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait maintenant 3 ans, en fait, que l'euthanasie a été légalisée au Québec. Elle a été légalisée dans une loi qui, en même temps, était une loi qui promettait ou qui affirmait le droit de chacun d'avoir accès aux soins palliatifs, à des soins palliatifs de qualité. Alors, après 3 ans, disons que le constat qu'on peut faire, malheureusement, c'est que l'euthanasie, qu'on appelle ici l'aide médicale à mourir, a pris toute la place. Et dans les rapports de la commission de surveillance et au niveau, disons, médiatique, vraiment l'emphase est mise sur l'aide médicale à mourir. Et malheureusement, ça s'est fait aussi au détriment des soins palliatifs. Donc, parallèlement à cette montée en flèche de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir, il y a vraiment une détérioration notoire, visible, constatée par les gens du milieu des soins palliatifs et de l'accès et des services offerts.
Donc, si je te suis bien, Aubert, c'est que tu revendiques que la loi soit mieux appliquée, paradoxalement. Hein? C'est-à-dire, en fait, spécialement le volet qui a trait aux soins palliatifs qui a été carrément délaissé ces dernières années.
Oui, puis en fait, ce qui est ironique, c'est qu'au départ, la loi était une loi d'accès aux soins palliatifs. C'est vraiment comme ça qu'elle a été vendue. Et le petit volet devait concerner ce qui a été vendu comme une mesure d'exception pour des cas exceptionnels.
Un petit paragraphe.
C'était quasiment un petit paragraphe dans la loi. Et au final, bien, dans son application, ça a été complètement l'inverse. Alors, au niveau des soins palliatifs, la situation est très alarmante. Le Collège des médecins a fait une sortie pendant l'année. Les deux associations, les deux grands regroupements de soins palliatifs, on parle de l'Association québécoise des soins palliatifs et la Société québécoise des médecins de soins palliatifs, ont fait des sorties médiatiques à 2-3 reprises pour dire, écoutez, on s'en va vers un mur. Vers la fin de l'année 2018, il y a eu une onde de choc quand on a appris que le CHU de Québec avait fermé sa clinique externe de soins palliatifs. Il y a des patients qui se sont vraiment, du jour au lendemain, retrouvés laissés à eux-mêmes. Donc, ça a tout été des constats, disons, qui montrent que les soins palliatifs se détériorent. Une autre chose qui est très inquiétante, c'est que la relève des soins palliatifs est plus assurée. Et ça, c'est grave parce que ça veut dire que si ça va déjà mal maintenant, ça va aller de plus en plus mal parce qu'il n'y a pas de nouveaux médecins qui vont être formés.
C'est un manque de formation. C'est dans les facultés que le bas blesse? Et...
En fait, là où le bas blesse, c'est vraiment... c'est une loi qui a été faite qui n'a pas rapport directement avec l'aide médicale à mourir ou avec même les soins palliatifs. Ça a été la loi 20. C'est une loi que le docteur Barrett avait faite pour assurer aux gens un médecin de famille. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a obligé les médecins à faire du cabinet, donc faire des heures de bureau. mais il n'a pas exclu les médecins de soins palliatifs. Ce qui fait que les médecins de soins palliatifs aujourd'hui...
Ils étaient sur les étages d'unités spéciales pour les soins palliatifs.
Exactement.
Dans les maisons, ouais.
Ne peuvent plus pratiquer à temps plein. Donc, si on ne pratique pas quelque chose à temps plein, on perd de l'expertise. On a moins de temps pour former d'autres médecins. Les jeunes médecins qui veulent apprendre, apprennent, mais avec des miettes, avec du 20 % de temps de consacrer à cette pratique-là. Donc, c'est très problématique. Et en même temps, la solution serait très simple. Ce serait juste de dire, comme ils ont fait pour les intensivistes, permettez une exception, puis que les médecins de soins palliatifs n'aient pas à être inclus dans la loi 20. Tout simplement.
Oui. James Langlois, tu avais une question pour Robert.
Oui, bien, non, c'est ça, je voulais soulever le cas du CHU de Québec, hein, parce qu'en parlant avec Louis Dionne, que j'ai interviewé pour Le Verbe il y a une couple de mois, là, lui soulevait justement la beauté des cliniques externes, hein, avec dans le milieu hospitalier, parce que à quel point ces cliniques-là avaient influencé le vivre à l'hôpital, finalement, les soins de fin de vie. Alors, c'est quand même une tristesse.
C'est quand même une tristesse, puis c'est un autre grand paradoxe, c'est que même monétairement, financièrement, on sait que ça coûte beaucoup moins cher de traiter des patients à domicile plutôt qu'à l'hôpital. Les statistiques, le monde, je pense qu'on parle d'une différence de 400 $ par jour par personne comme traitement. Donc, tout devrait être mis en place pour orienter les soins à domicile, orienter les soins en maison de soins palliatifs, en clinique externe, ce qui coûterait moins cher et ce qui répondrait aux souhaits de la population. Majoritairement, les gens, ils veulent mourir
c'est
à la maison.
C'est ce qu'ils désirent, évidemment.
Oui. Mm-hmm.
Tu parlais, Aubert Martin, un peu plus tôt, des associations qui sont, j'allais dire, montées aux barricades, mais qui ont fait des déclarations publiques. L'Association québécoise des soins palliatifs, les médecins des soins palliatifs qui ont demandé à ce que cesse l'hémorragie, en quelque sorte, qu'on prenne soin des patients en fin de vie adéquatement. Mm-hmm. Quelle a été la réaction des pouvoirs publics face à ces sorties-là?
Je dirais que, évidemment, on a connu un changement de gouvernement. Alors, c'est sûr que toute la période, disons, d'instauration du nouveau gouvernement qu'il faut qu'il se mette en place. Le nouveau gouvernement, la ministre Danielle McCann, a l'air, concernée par la situation. Elle montre quand même une ouverture à se pencher sur le dossier d'une façon urgente. C'est sûr qu'elle constate les faits, elle vient d'arriver, puis elle est obligée de penser aux mesures. Vivre dans la dignité a été invité à un forum partenarial des soins palliatifs, organisé par l'Association québécoise des soins palliatifs, donc qui invitait différents partenaires en lien avec les soins palliatifs pour penser à des mesures, pour penser à des moyens pour faire face à cette situation-là.
Proposer à l'État des solutions, si je comprends.
Proposer à l'État des solutions, exactement. Une des mesures qu'ils mettent de l'avant et que je trouve qui est très pertinente, ça serait de créer un observatoire de la fin de vie. Donc, avoir un organe, disons, indépendant, financé, indépendant, qui pourrait amener des données, des faits, des statistiques sur la façon dont on meurt au Québec. Parce que pour l'instant, ce qui est dramatique, c'est qu'on sait très bien qu'une personne qui meurt toute seule dans son appartement, meurt moins bien qu'une personne accompagnée avec sa famille. Mais on n'a même pas de chiffres, on n'a même pas de données pour le prouver. Alors, un observatoire de la fin de vie permettrait de mettre statistiquement, avec une recherche scientifique rigoureuse, la façon dont on meurt au Québec. Et là, on aurait vraiment des données, des faits pour dire voici les lacunes, voici ce qui se passe bien, voici vers quoi on pourrait aller.
Évidemment, dans un contexte de vieillissement de la population, c'est d'une pertinence indubitable. Ça va de soi qu'il faudrait au moins avoir des données fiables sur la question.
Exactement. Il faut vraiment avoir des données fiables. Il faut vraiment se pencher sur le dossier. Moi, je regarde autour de la table, on est pas mal tous du monde de la même génération. Puis je me rappelle quand on était au primaire, on nous parlait de la pyramide inversée, puis on disait si on fait rien d'ici 20-30 ans, on va avoir des problèmes. Il est temps qu'on mette nos responsabilités à bonne place, parce que là, on commence le début de la pyramide dont on nous parlait, puis ça ne fait que commencer. C'est ça aussi. C'est que déjà, on trouve ça dramatique, et ça ne fait que commencer. Dans 15 ans, les proportions vont être encore plus grandes.
Tu parles de la pyramide.
La pyramide démographique.
Il y a un poids plus grand encore sur les jeunes générations de travailleurs quant aux soins à prodiguer de manière personnelle ou aussi de manière plus macro aux populations plus vulnérables vieillissantes.
Exactement.
James Langlois, tu avais une question?
Oui, puis ce qui est sorti récemment aussi, Aubert, tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est qu'on apprenait que beaucoup de gens ont reçu l'aide médicale à mourir sans trop avoir eu de consentement ou de choix éclairé.
Oui, ça c'est...
Est-ce que la loi balisait assez fortement, en tout cas, sur papier, ou du moins, non?
Oui, ça, en fait, c'est l'autre, disons, c'est l'autre constat alarmant, c'est que la loi a été vendue en nous parlant de balises, de critères très stricts. Mais ce qu'on s'aperçoit, là, il y a eu trois rapports de la commission de surveillance qui sont sortis d'une année à l'autre. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que d'une année à l'autre, les critères sont bafoués. Mais des fois, c'est des critères très, très importants. Des fois, on parle plus, disons, d'une irrégularité. Des fois, on parle vraiment carrément d'une violation d'un critère de la loi. Je vous donne des exemples, c'est que il y a des gens, même encore cette année, il y a trois personnes qui ont été euthanasiées alors qu'elles n'étaient pas atteintes d'une maladie grave et incurable. Il y a des personnes qui ont été euthanasiées qui n'étaient pas en fin de vie. Il y a des personnes qui ont été euthanasiées par un médecin qui n'avait pas lui-même fait les démarches de suivi avec le patient. Donc, on lui a présenté un patient, il l'a euthanasié. Il ne savait même pas si la demande était réitérée, si le choix de la personne était libre, s'il y avait de la pression. Il ne connaissait pas ses antécédents, il l'a euthanasié comme un animal qu'on y amène.
Ce n'est pas le médecin traitant, soignant sur le long terme. Là. Ça a été
non,
un cas,
exactement, c'est ça.
Presque
c'est
spontané.
Ça, exactement, c'est vraiment spontané. Il a peut-être été suivi par une autre personne, mais ça, c'est des critères que la loi devait baliser. Ce qui est dramatique par rapport à ça, c'est que d'une année à l'autre, il n'y a pas de conséquences. Donc, la loi est bafouée d'une année à l'autre.
Sans sanction aucune.
Alors, c'est une invitation à le faire d'une année à l'autre.
En tout cas, oui, c'est ça. Si ce n'est pas une invitation, c'est certainement... Il n'y a pas de dissuasion pour aller à l'encontre. Simon Maltais, tu as une question pour Robert?
Oui, en fait, moi, je suis curieux de savoir c'est quelle proportion par rapport au cas. Je suppose tu parlais tantôt qu'on n'a pas beaucoup de données, mais par rapport à ça, est-ce qu'on a des données? Est-ce qu'on sait c'est quelle proportion qui a été fait en bafouant la loi? Ou...
Oui, d'une année à l'autre, je dirais qu'en moyenne, c'est au moins 5 % des cas qui sont bafoués. Puis il y a un 5 % des cas où la commission n'a pas été en mesure de déterminer si le critère n'avait pas été bafoué ou non. Une des raisons pour lesquelles ils ne sont pas en mesure de le faire, c'est soit que le questionnaire était mal rempli ou soit que carrément le médecin répondait à la commission « Excuse-moi, mais moi, je n'ai pas envie de remplir les questions que tu me demandes. J'ai fait mon travail et c'est fini. » Et d'une année à l'autre, on permet ça. Donc, en ce moment, il y a des centaines de cas où les médecins soit répondent pas, soit remplissent mal et la commission a dit « Je ne peux pas affirmer que le cas était bien rempli ou il n'a pas été rempli. » Juste avant, j'aimerais ça revenir à ce que James mentionnait tantôt quand il parlait des choix qui n'étaient pas tout à fait éclairés. Il faisait référence à une étude qui est sortie au mois de novembre, si je ne me trompe pas, qui a été faite par le CUSUM, donc le Centre universitaire de santé McGill, qui ont étudié 80 dossiers de personnes qui ont demandé l'euthanasie. Je pense que dans ces dossiers-là, il y a 43 personnes qui ont été jusqu'au bout de leur demande. Et ils se sont aperçus, ils ont fait plusieurs constats. D'abord que le suivi en soins palliatifs arrivait seulement en moyenne 7 jours avant la demande d'euthanasie. Mmh. Donc avant ça, il n'avait jamais été référé à quoi que ce soit de soins palliatifs. Puis environ 7 jours avant, les personnes avaient l'option des soins palliatifs. Donc ils étaient rendus vraiment au bout de leur cheminement mental. Ils n'en pouvaient plus. Ils étaient sur le bord de demander de mourir. Puis là, on leur parle des soins palliatifs, ce qui est totalement...
C'est absurde.
C'est absurde et c'est intolérable. Ils se sont aussi penchés sur les raisons pour lesquelles les gens demandent l'euthanasie. Et ça revient, il y a une étude qui était sortie l'année précédente à Toronto qui parlait des raisons. Et c'est alarmant de penser à ça parce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de cautionner comme raison pour demander l'euthanasie, donc pour mourir, des raisons de suicide qu'on permet en tant que société. On nous a souvent parlé de la personne qui était agonisante sur son lit, qui avait une douleur qu'elle pouvait plus supporter, puis que c'était vraiment qu'est-ce qu'on fait pour cette personne-là.
Alors que les médecins en soins palliatifs, rappelons-le, rappelle fréquemment qu'on a tout ce qu'il faut pour soigner adéquatement la douleur dans presque tous les cas. Là.
Exactement. Donc, le cas qu'on nous a vendu, c'était la spécialité du monde des soins palliatifs. Et j'aime toujours rappeler qu'avant que la loi sur l'euthanasie arrive, l'ensemble du monde de soins palliatifs, qui sont les experts sur la fin de vie, étaient contre cette mesure-là. Donc, c'était pas un nouvel outil qu'ils avaient besoin. Ils ont dit, donnez-nous pas ça, on veut juste répandre notre savoir et c'est ce qui va bien aller.
Alors, les raisons évoquées qu'on retrouve dans ce rapport de McGill sur les raisons évoquées par les personnes en fin de vie pour demander l'euthanasie, c'est?
En gros, c'est souvent la même affaire. C'est la peur d'être un fardeau. Imaginez. Le vouloir contrôler sa mort, l'épuisement, le manque d'options de traitement, donc on parle justement des soins palliatifs. Il y a même 12 % des répondants qui n'avaient aucune raison. Ils mentionnaient aucune raison, mais ils voulaient mourir. Alors, les gens qu'on euthanasie aujourd'hui, en gros, leur souffrance, c'est une crise existentielle. Ils se retrouvent devant la maladie, ils se retrouvent devant la mort, et là, ils font face à des questions, à une situation qu'ils ne peuvent pas, à laquelle ils ne peuvent pas faire face. Et c'est comme un moment de panique. Et au lieu de les aider, de les accompagner, de les aider à partir en douceur, on leur propose une sortie rapide qui va régler tout en même temps. Leurs problèmes, leur angoisse,
leur fardeau, le problème des proches,
et tout ça. Parallèlement à ça, il y a des études qui sont sorties sur les proches aidants qui montrent que les proches aidants sont en très grande détresse. Mmh. Donc, c'est des mesures comme ça qu'il faudrait corriger avant de mettre l'accent sur ça. Et je veux juste finir là-dessus parce que je sais qu'on achève dans le temps, mais j'aimerais qu'on commence quand même l'année avec des bons points.
C'est ce que j'allais te demander pour conclure. T'as sûrement une bonne nouvelle pour nous, Robert
Martin. Les bons points, de un, c'est que là, vraiment, il commence à y avoir une prise de conscience sur la précarité puis la difficulté des soins palliatifs au Québec. Ça, on sent qu'il y a cette prise de conscience-là. Et l'autre bon point, juste avant l'année 2019, Vivre dans la dignité a été invité par la ministre Marguerite Blais, qui est la nouvelle ministre des aînés et des proches aidants, à une journée de consultation nationale sur les proches aidants. Elle organisait ça à travers le Québec. On était 200 représentants, des proches aidants, des représentants d'organismes, des experts, des chercheurs, toutes sortes de monde, pour faire une journée complète pour se donner les outils d'un cadre légal qui serait proposé pour entourer et soutenir, mieux soutenir les proches aidants. Et
ça, la consultation qu'elle a faite à la fin de 2018, là, en vue de sortir la loi sur les proches aidants qu'elle veut sortir avant l'été, je pense.
C'est ça, exactement. Oui, exactement. Elle prévoit ça vers l'été, probablement à l'automne que la loi devrait être faite. Okay. Et ça, c'est un très grand pas. Ouais. Et tout le monde est ressorti de là avec beaucoup d'espoir parce que vraiment, on a senti une ouverture et un désir profond du gouvernement de changer les choses pour les proches aidants.
Bon, un soupir de soulagement au moins après toutes ces nouvelles. Aubert Martin, tu es directeur de l'organisme Vivre dans la dignité. On peut vous consulter votre site web qui vivedanslaDignité.org, si ma mémoire est bonne.
Vivredignité.org.
Vivedignité.org. On invite les auditeurs à consulter tout ça. Vous avez une page Facebook aussi. Merci Aubert Martin d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
C'était « On n'est pas du monde » en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.